Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, comment ça va?
Ça va bien, vous autres?
Ben oui, ça va. Hey, écoute, là, t'as vu là 1,2 million d'employés sur le payroll au Québec, mais là, on parle du fédéral, provincial, municipal. Puis là, t'as des super agences aussi qu'on commence à nommer, à créer. Là. On l'a fait en santé, en mobilité, il y en a d'autres. Là. Et là, on perd carrément le contrôle avec ça. Là.
Ben oui, carrément. Là, on parle d'une augmentation de 25 % de l'ensemble des employés dans le secteur public au Québec depuis 2018. C'est quand même 225 000 personnes de plus à la charge des contribuables. Donc, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, ça couvre autant au niveau municipal, provincial que fédéral. Ben, il en reste que quand on dénombre tout, là, on compare le Québec avec l'Ontario pour le fun. Au Québec, on a un employé de l'État pour 8 habitants. En Ontario, c'est 1 pour 10. Donc, pour des juridictions, bon, on s'entend qu'il y a plus de population en Ontario,
ça a pas
mais il
d'allure.
en reste qu'ils ont un poids. Ils ont un poids fiscal puis une fonction publique qui est à peu près similaire. Donc, on est quand même pire qu'eux à ce niveau-là. Et juste à titre de comparatif, j'ai dit qu'il y avait une croissance des effectifs depuis 2018 de 25 % dans tous les secteurs de combinés du public. Ben, dans le privé, c'est une augmentation de 7,7 % sur la même période. Donc, on peut dire que la fonction publique, là, sa taille, a augmenté à un rythme 3 fois plus rapide que le secteur privé qui le finance littéralement.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui peut dire, là, c'est la job du Trésor de faire ça avec un ministère des Finances?
Ben oui, il y a le concept du trésor. On sait qu'au Québec, ben d'ailleurs, quand on reprend souvent là, les calculs, nous, on calcule souvent ça en termes d'équivalent temps
Ouais,
complet,
c'est
donc
ça.
des postes créés de 35 heures semaine. Donc, quand on regarde le tout, c'est juste sous le gouvernement de François Legault, puis maintenant de Mme Fréchette, mais en 8 ans, on a ajouté 109 000 nouveaux postes équivalents temps complet.
Ah, ben ça n'a pas
Ça veut pas
d'allure.
nécessairement dire 109 000. C'est pas juste 109 000 personnes, c'est 109 000 postes. Donc, ça peut être, il y a peut-être des fois 2 personnes pour un temps complet parce que c'est deux
Ouais.
personnes qui sont à temps partiel, ou autre, donc c'est à considérer. Madame Duranceau avait commencé un genre de ménage dans les effectifs, mais l'affaire, c'est que ils ont réduit de pas loin de 3 500 postes l'ensemble des effectifs dans la fonction publique, donc les ministères, mais ils ont
Mais,
engagé plus de
ouais.
5 000 personnes dans le parapublic. Donc, au final, on embauche quand même plus de monde au net à la fin de l'année. Puis ça, ben, c'est quand même nous tous qui assumons la facture en tant que contribuables.
Mais quand tu dis aussi, parce qu'on avait eu des études là-dessus, en termes de PIB au Québec, quand tu dis que le PIB est rendu à 52 % du PIB qui dépend des administrations, soit fédérales, provinciales et municipales, ça veut dire que c'est rendu que le gouvernement qui pompe le fric au privé pour se gérer, en fait, pour gérer la machine, est rendu plus important. Ça veut dire qu'ils viennent, c'est un vampire, là.
Ben oui, ça, pour un PIB d'environ 625 milliards au Québec, on se dit que la moitié dépend carrément d'intrants du gouvernement, peu importe le palier. C'est quand même assez fou. Puis effectivement, l'un dépend de l'autre. Le public dépend quand même bien du privé pour continuer à subvenir à ses besoins. Et il y a quand même toute une situation qui va malheureusement arriver au Québec au courant des prochaines années. Je revenais dans les chiffres récemment parce que moi, je touche pas aux questions, bon, les politiques de natalité et tout ça, mais il faut quand même s'entendre qu'une population vieillissante et aussi déclinante, ben ça amène un enjeu assez important au niveau de la gestion des finances publiques pour le futur. Puis Montréal va y goûter pas mal. On apprenait récemment que Montréal va avoir une population littéralement déclinante au courant des prochaines années, va rentrer dans une genre de phase de décroissance. Déjà que ses infrastructures, ses rues, ça laisse à désirer. Hier, j'étais allé me promener à Montréal par erreur parce que je pensais pas que ça durait le tour de l'île, fait que c'était chaotique à grandeur de l'île. Et ça, c'était même pas en considérant le tour de l'île, c'était juste les cônes oranges, tout le kit. Mais plus sérieusement, il n'en reste qu'avec une population déclinante et vieillissante, ben, vous allez avoir quand même plus de besoins. On l'a vu récemment dans les rapports qui ont été déposés à l'UMQ, les déficits au niveau des infrastructures municipales, ben, ça, c'est assumé par les contribuables, veut pas. Mais au cours des dernières années, tant à Montréal qu'à Québec, on a augmenté la taille de la bureaucratie, on a engagé plus de fonctionnaires, on a mis en place plus de services, mais pas nécessairement plus accessibles ou qui sont plus utiles. Et on a misé sur des nouvelles infrastructures plutôt que de prendre soin des anciennes. Puis là, après ça, bon, on se demande comment ça se fait qu'on est endetté,
Hey.
que les finances tiennent plus et qu'en plus de ça, ben, les contribuables sont à bout de souffle, puis que le simple fait de d'oser leur en demander plus, ben, c'est inadmissible considérant le contexte actuel.
Je te nomme consultant pour le prochain gouvernement à Québec. Il va y avoir des élections là, au mois d'octobre. Qu'est-ce que tu fais en partant? Tu sais, pour te sortir de ce bourbier-là, parce qu'on le voit, là, c'est un bourbier et ça va être infernal parce que c'est des déficits à plus finir. Puis en plus, pour arriver à l'équilibre budgétaire en 2030, tu dois retrouver 2 milliards de dépenses. Tu dois compresser 2 milliards de dépenses qui n'ont pas encore été identifiées. Donc, le prochain gouvernement, en partant, tu dois mettre un outil, là, je pense, une espèce de tu fais une recherche de tout ce qu'on peut couper, puis partout où on doit couper pour essayer de te blinder par rapport à ce qui s'en vient. Sinon, c'est un mur là, pour le prochain gouvernement.
T'sais, honnêtement, si on me demandait d'être consulté par le gouvernement pour donner des services, je pense que je serais juste débarqué avec une chaîne de ça, là, littéralement, mais pour imiter un certain Argentin bien connu. Mais il n'en reste qu'il y a des ministères qui devraient prendre qui devraient prendre, comment dire, qui devraient carrément couper du jour au lendemain, ça c'est sûr et certain. Mais plus, comment dire, de manière plus sérieuse et surtout plus précise, je pense que la première des choses qu'il y a à faire, on avait souvent parlé du fameux DOGE là, aux États-Unis, que finalement on n'est pas tout à fait sûr où c'est rendu, mais d'avoir une commission de révision permanente des programmes.
C'est ça.
Donc, imiter l'exercice de la fameuse commission Robillard de sous Philippe Couillard en 2015, mais pas de la rendre « Ah, vous avez un objectif de sauver 2 milliards, puis après ça, on ferme la commission parce que c'est accompli. » Non, c'est d'avoir une révision permanente de tous les programmes, de tous les ministères, de faire la vérification, à savoir est-ce que les programmes qui se rattachent à chaque ministère sont encore utilisés, est-ce que le privé pourrait pas s'en charger à la place, est-ce que le PPP serait pas plus intéressant de réviser chaque programme, puis si jamais bon, on découvre que finalement l'utilité n'est pas avérée, ben, on coupe le programme. Puis ça, quand on coupe un programme, c'est comme ça qu'on coupe par la suite l'ensemble des équivalents temps complet, donc les postes qui s'y rattachent, puis qu'on peut vraiment réduire la machine. Là, pour l'instant, au Québec, on n'a pas vraiment de courage politique. On veut réduire la taille de la fonction publique avec par attrition. C'est mieux que rien, mais attendre que les gens partent à la retraite, ce n'est pas nécessairement la meilleure option pour avoir des économies rapidement. Et surtout, ben, il faut le dire franchement, quand je voyais des nouvelles tantôt passer, il y a des gens qui partent à la retraite de la fonction publique, bon, de un, ils deviennent quand même, veulent pas pensionnaires, fait qu'il y a quand même un coût qui se rattache à ça.
Ben
Mais plus important encore, il y en a beaucoup qui deviennent littéralement des consultants. Donc, ils quittent leur pratique dans la fonction publique, ils sont virés de bord, puis ils se mettent à facturer le CHUM ou le CUSS ou peu importe l'endroit où est-ce qu'ils ont travaillé auparavant, à titre de consultant intérimaire pour leur successeur, etc. Donc, il y a des pratiques aussi à changer pour faire en sorte que les fonctionnaires ne se recyclent pas en consultant une fois arrivé à la retraite, là.
Ouais, tu te restes en consultant 32 000 piastres par mois, là. Hein, c'est ça qu'on a vu au CHUM, notamment, là. 32 000 par mois. Pas pire, la business est bonne.
Ben oui, puis c'est pas la première fois qu'on voit ça. On avait vu en mars dernier, là, je pense que c'était Jocelyn Boucher, qui est un ancien dirigeant du CHUM. Lui, il avait touché 367 000 $ là, 20 400 $ par mois pour former essentiellement ses successeurs. On a eu aussi le René Descoteaux, là, qui est rendu une consultante, aussi une ex-cadre du CHUM à Montréal, en 18 mois, 200 000 $ qui a été facturé tout juste après sa retraite.
Tout va bien.
Donc, on manque pas de personnes dans la fonction publique qui partent à la retraite puis qui sauvent une entreprise à numéro juste à temps pour ensuite facturer des services au public.
Oui, puis tu sais, tout à l'heure, on parlait des fonctionnaires, tout ça, des gens qui travaillent directement pour l'État, mais tu as du monde aussi indirectement qui travaille pour l'État, des sous-traitants dont le seul client, c'est le gouvernement ou la municipalité ou lié à un gouvernement ou à l'agence gouvernementale. Donc, ça fait encore plus de monde qui dépendent de l'État, là, quand tu regardes ça at large au Québec. Donc, sur 4,4 millions de travailleurs, tu dis, il y a peut-être la moitié des travailleurs au Québec qui dépendent de l'État comme tel. C'est quand même lourd là, comme situation.
C'est intenable dans tous les cas, surtout si, en plus, on regarde l'état de la population présentement. On a un taux de productivité qui est tout sauf enviable quand on le compare à celui de nos voisins.
Ouais.
On a aussi un des poids fiscaux les plus lourds. Et par-dessus le marché, ben,
mais
on
ça,
va
c'est
se
peut-tu,
dire...
Est-ce que c'est lié, ça peut-tu être lié, le taux de productivité, le poids fiscal? Comme tu dis, je vais me faire ramasser par l'impôt. Ben, gars, je vais en faire moins possible, puis je vais faire peut-être d'autres choses dans ma vie ou je vais travailler au noir à côté, là, tu sais.
Ben, c'est ça. Il y a quand même aussi une illusion parce qu'à la fin de la journée, entendons-nous, c'est sûr que de se faire imposer autant sur de l'overtime, c'est inacceptable. Mais de l'autre côté, plus vous travaillez, plus vous gagnez quand même, mais on devrait effectivement être encouragé à travailler davantage plutôt que d'être pénalisé. Puis malheureusement, le gouvernement n'a jamais tombé là-dessus. Puis en plus, avec notre culture syndicale, on peut pas s'attendre à ce que ça change, mettons, dans l'espace public. Mais c'est sûr et certain que le poids qu'on a au Québec, ça nuit à notre productivité. Puis malheureusement, il y a aucune réflexion en ce sens qui a été faite récemment, du moins dans les médias ou par des institutions, comme ben, je parlais tantôt de l'UMQ. Mais on peut parler aussi des partis politiques comme Québec solidaire et compagnie qui ont les mêmes constats que tout le monde. On voit le déficit, on voit la dette, on voit l'état des finances au Québec.
Les autres, ils veulent en remettre dessus, là.
Exactement. Eux, ils considèrent que le problème, c'est pas la colonne des dépenses, c'est la colonne des revenus. Puis c'est littéralement cette mentalité-là qui nous a mis dans cette situation actuelle, où est-ce qu'on a des finances déficitaires, une fonction publique qui est insoutenable. Puis malgré tout, je veux dire, on dit qu'on manque d'argent à tous les niveaux. C'est vrai, mais c'est parce on n'a pas eu les priorités à la bonne place, puis on dépense trop.
Non, exactement. Madame Fréchette, on a fêté ses 40 jours. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là. C'est pas 100 jours, c'est 40 jours. Là. Dans son entourage, on a dit hey, 40 jours, c'est merveilleux.
Ça n'a pas été une belle semaine.
Hey, mais tu sais, sur la dette, elle l'a échappé carrément, là, entre autres. Y a-tu des indicateurs? Là? Mettons, tu es. Nicolas Gagnon, tu es un consultant puis tu briefes les futurs politiciens. Il y a quand même des indicateurs à connaître, là.
Oui, puis je le ferai bénévolement, ce service de consultant-là, parce qu'ils en ont grandement besoin. Mais c'est vrai que Mme Fréchette, elle a un peu échappé sur la dette. Ceci étant dit, je vais comme pas me mettre nécessairement à sa défense, mais je veux dire, si on posait la question aux 124 autres députés à l'Assemblée nationale ou aux 343 autres à la Chambre des communes, pas mal sûr que la très grande majorité se planterait ces chiffres.
Mais Nicolas, tu sais, le premier ministre était à l'économie avant quand même.
Ouais, oui.
Il est supposé avoir juste au moins une base ou chiffres approximatifs. Tu restes la première ministre.
Oui, absolument. Dans son cas, là, encore moins d'excuses. Ceci étant dit, moi, le ministère de l'économie, je ne le considère pas comme un vrai ministère de l'économie, entre guillemets. Moi, je le considère plus comme un distributeur de chèques qu'autre chose. Kelsey, par exemple, elle avait été ministre des Finances. Là, j'aurais été beaucoup plus sévère, mais ministre de l'économie, si elle connaisse le PIB, c'est déjà surprenant.
Mal paru beaucoup. Là.
Oui. Absolument. Elle aurait pu au moins essayer de donner un chiffre approximatif, mais assez planté. Mais il en reste que quand même cinq chiffres, tant qu'à moi, cinq indicateurs clairs que quelqu'un qui va avoir un minimum de crédibilité pour gérer les finances publiques du Québec doit pouvoir mettre de l'avant facilement. De un, la taille de ton économie. C'est quoi le PIB du Québec? Ben, comme j'ai dit tantôt, c'est environ, le PIB nominal, c'est environ 625 milliards.
Ouais.
Le deuxième indicateur, la dette, qu'elle soit de la dette nette ou la dette brute, la différence entre les deux, c'est que la dette brute du Québec prend en considération les avantages sociaux à verser puis les pensions. La dette brute, c'est 272,6 milliards de dollars
par an. Oui, mais la dette brute est importante, là, comme tu dis, là, c'est ça, c'est tous les
exact.
Fonds de pension, puis c'est le périmètre comptable au complet, là.
Oui, puis on prend en considération les actifs, alors que la dette nette ne les prend pas en considération. Donc, c'est pour ça qu'automatiquement, il y a comme un écart. La dette nette, c'est 250
ouais.
milliards.
Ouais, ouais.
Mais au final, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé le calcul des actifs assez particulier parce que le gouvernement va pas vraiment les liquider si jamais il est dans le trouble. Fait que rendu là, c'est quand même... En tout cas, fait que la dette brute, 272 milliards. Le ratio dette PIB, je pense, c'est le troisième indicateur à retenir. Parce que ça, c'est le ratio qui détermine la richesse de votre nation par rapport à sa capacité d'emprunt. Présentement, si on prend la dette brute, ben, on a donc un ratio de dette PIB de 42%. C'est moins pire que bien des pays. On sait que le Canada, il triche sur ce chiffre-là parce qu'il montre juste le ratio de dette PIB du fédéral, mais le Canada, si on prend en considération toutes ses dettes,
oui.
on a un ratio de dette PIB qui est quasiment à plus de 100%.
Oui.
Puis ouais, finalement, mais ça, les deux
c'est,
autres, oui.
c'est quelque chose, ça, pareil. Parce que, tu sais, on vous dit, le Canada n'est pas endetté, puis on a encore de la place dans le G7, on est moins endetté. Mais quand tu calcules la dette des provinces et la dette des municipalités, je vais dire, on est endetté pas à peu près au Canada, là.
Oui, puis en plus, plus les sociétés d'État qui ont aussi une capacité d'endettement, comme mettons Hydro-Québec ou Hydro One. C'est tout à considérer là-dedans. Quatrième indicateur, le coût de la dette. Parce que bon, si on a une dette, ben, elle nous coûte quand même de l'argent chaque année. Au provincial, ça nous coûte 10 milliards de dollars par année présentement. Là, c'est 10 hôpitaux par année qu'on construit et qu'on jette à terre essentiellement pour payer les intérêts sur une dette qui continue d'augmenter à chaque déficit. Et finalement, le cinquième indicateur ultimement, pour moi, c'est le chômage. C'est-à-dire, c'est quoi l'état de votre population active présentement au Québec? Puis c'est un indicateur qui vous permet de savoir c'est quoi les turbulences que traverse votre économie. Ben, en mars dernier, on était à 5,4%. Là, on est rendu à 6,2% de chômage. Donc, ça a augmenté. Donc, tu sais, c'est drôle parce que je le pointe souvent du doigt le ministère de l'économie parce qu'ils vont prendre tous les lauriers quand l'économie va bien, entre guillemets. Mais quand l'économie va mal, ils sont jamais responsables de ça. Le chômage, c'est toujours la faute des autres. Mais par contre, ils vont toujours se vanter en premier quand ils stimulent l'économie avec votre argent.
Ouais,
donc, c'est assez particulier. Mais pour moi, c'est les cinq indicateurs que peu importe qui est dans le siège du premier ministre, que ce soit une personne de droite ou de gauche, doit connaître pour être un minimum crédible quand c'est temps de parler pour les contribuables.
Voilà. Fait que la Fédération canadienne des contribuables a de la job. Hein? Vous pourriez être consultant pour les politiciens. Ça ferait du bien, ça aussi. Peut-être les briefer une couple de semaines, une couple, mais il y a plusieurs séances où vous pourriez faire du briefage.
Parce qu'il y a beaucoup d'improvisation.
Oui, c'est ça. Nicolas Gagnon, c'est toujours un plaisir. Puis là, on voulait parler aussi de Carney qui dépense en malade, mais là, on n'a plus de temps. 200 000 $ de bouffe en 3 voyages. Pas non, pire, hein, Jordan? Imagines-tu comment ça fait de la bouffe? Nicolas, on se reparle. Salut.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Merci. Bye-bye. Voilà. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Eux autres, ils font des demandes d'accès à l'information. Puis la dernière, c'est ça, là. 200 000 $ de bouffe en 3 voyages pour Carney.
Ah, mais il se gâte en maudit. On l'avait vu dans un premier aussi.
Il mange quoi? 200 000
$? Je sais pas. Il se paye la traite. Il s'en sac complètement.
Il mange pas du McDo, lui-là. Là, hein? Il mange pas de... Puis je dis pas qu'il faut que tu manges du McDo. Mais si, Paul, c'est le régime principe.
Ouais, t'as un 15 services. Là.
Lui, il se fait ramasser. Là. La semaine dernière aussi, ça a été une dure semaine pour Carney.
Oui, vraiment.
Avec l'Alberta, la clarté référendaire. Là, c'est des problèmes internes du Canada. Parce que lui, il avait fait campagne à l'international, un peu comme Mme Fréchette. Hein? Alors, regardez comment je suis
sa campagne de séduction.
Ah, oui, je vous capable de me promener partout sur la planète.
Le World Tour à Carney.
Bien, Fréchette, c'était ça aussi. Hein? Est allé à Washington, est allé voir Carney, est allé voir Macron. Puis, s'ils peuvent la sortir pour n'importe quel voyage, elle va le faire. Mais elle se fait rattraper pour une niaiserie, la dette. Pas capable d'avoir la dette nette
non,
du
moi,
Québec.
Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est inacceptable. T'es la première ministre du Québec.
Je suis d'accord.
Au moins que tu sois approximatif sur le chiffre, là, à la dizaine près, comme on l'avait demandé. Là, tu peux pas arriver de même, pas savoir ça.
Puis, exact.
Deux, trois dossiers, même l'histoire de l'assurance aussi qui va augmenter au Québec. Elle était pas au courant de
pas
ça.
Pas au courant.
T'sais, deux, trois affaires qui font extrêmement mal. T'sais, monsieur, madame, tout le monde, je comprends qu'ils vont pas retenir... Parce qu'il y a quasi-totalité de ça, là, mais ça fait mal à la crédibilité en maudit quand t'es premier ministre en plus. Là.
Exactement. Fait que, regarde, on n'a pas fini d'en jaser, mais l'important, c'est qu'il y a des organisations comme ça, Fédération canadienne des contribuables, eux autres, ils vivent juste par des dons, hein, en passant. Là, si vous voulez faire un don, ben, eux autres, ils font des demandes d'accès, ils ont des gens dédiés pour essayer de fouiller, gratter, parce que je pense que les contribuables, on en a plein le dos. Là.
Ouais.
Voilà. Après la pause, on jase de C22. Il y a aussi l'informatique. Hein? Je ne sais pas si tu as vu les dépenses.
Ça dépense. C22, c'est freak.
Duranceau a dit, Mme Duranceau, c'est elle est au Trésor, elle, a dit la semaine dernière que toute l'informatique, les projets informatiques en santé, là, ça pourrait tout virer de bord. Là, on a un DSN, là, dossier santé numérique. Là, elle a dit, ouais, ça se peut que ça ne soit pas ça finalement. Là, on fait des projets pilotes. Ça se peut que la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans 1 mois, dans 6 mois, on décide, hey, on a mis des millions là-dedans, là. Bon, on va aller ailleurs. C'est pas...
On a remis un montant, ça aurait coûté, exemple, un 600% de plus, comme l'histoire du dossier informatique là, qui a coûté 7 fois plus cher que prévu. Puis on va sacrer notre camp.
Ben, elle a dit, on n'est pas sûr si on va aller de l'avant avec ça. Puis deuxièmement, ils sont fait taper ses doigts, c'est parce qu'ils dépensent plus qu'ils devraient dépenser.
Ben oui.
Puis ça pousse qu'ils vont prendre l'argent. Fait que c'est une fuite par en avant là, en informatique. On en parle avec Steve Waterhouse après la pause, on vient.
Couture dans le mid. Radio X.